Chapitre 29. Après s'être engagé sur l'autoroute pour s'éloigner de Richmond, Buddy Lee prit la première sortie et s'arrêta à une station-service, où il ouvrit la portière du pick-up et se pencha pour vomir. On aurait dit qu'un enfant avait répandu de la peinture rouge et vert par terre.
« Je crois que l'autre enfoiré m'a bousillé le foie »
grommela-t-il. Ike baissa sa vitre et se regarda dans le rétroviseur extérieur. Il avait du sang sur le visage, et son menton gonflait comme un poisson-coffre. Il tâta l'arrière de son crâne et constata que les coups de matraque avaient rouvert la plaie que le jeune biker lui avait infligée avec la chaise.
« C'est clair qu'ils nous ont bien défoncés, » acquiesça Ike. « Ils ont essayé ?»«
Quoi ?
Ils ont essayé de nous défoncer, » précisa Buddy Lee.
« Tu t'es pas vu dans la glace, de toute évidence. »
Buddy Lee se laissa aller contre le dossier de son siège.
« Je reconnais qu'ils nous ont pas loupés. N'empêche, on est toujours là, non ? Beaucoup des gars avec qui on traînait à l'époque sont morts. Je suis pas croyant, mais je pense que t'étais dans le vrai quand tu disais que tout le monde a un talent, une raison d'être. Peut-être que c'est pour ça qu'on est encore vivant, pour finir cette mission. »
Ike se demanda si Buddy Lee cherchait à le convaincre ou à se rassurer lui-même. Cependant, il n'avait pas tort. Tous les deux restèrent silencieux quelques minutes, tandis que leur corps prenait la mesure de la douleur qui ne manquerait pas d'empirer lorsque le jour aurait laissé place à la nuit.
« Tu y tiens vraiment à ce couteau, hein ?»
lâcha enfin Ike, et Buddy Lee sortit le canif de sa poche pour l'examiner longuement.
« Il appartenait à mon père. »
Une explication qui tenait en cinq mots, et qui suffisait amplement à Ike. Il décida de changer de sujet.
« Tariq sait forcément où se trouve Tangerine. Sinon, il n'aurait pas ordonné à ces gorilles de nous tabasser. »«
Je suis d'accord. » Mais il nous a bien fait comprendre qu'il n'avait pas l'intention de nous aider,
nota Buddy Lee, avant de se racler la gorge et de cracher par la vitre ouverte.
On pourrait peut-être lui tendre un guet-apens, attendre qu'il soit seul, le foutre dans le coffre et l'emmener en pleine cambrousse pour l'interroger.
Je connais un gars qui pourrait peut-être le convaincre de causer,
révéla finalement Ike en essuyant le sang sur ses phalanges à l'aide d'une serviette en papier.
Et t'aurais pas pu le dire avant que les autres connards me redressent les côtes ?
Ce gars dont je te parle. On s'est pas quitté en très bons termes. Je vais pas te refaire toute l'histoire, mais il a une dette envers moi. Je pense qu'il est temps qu'il passe à la caisse.
Tu veux qu'on y aille maintenant ?
Pourquoi ? T'as mieux à faire ?
Non, non, répondit Buddy Lee. Par contre, ça te dérange pas de prendre le volant ? Un dos d'âne un peu violent et je risque de tomber dans les pommes.
Ike s'engagea sur la voie d'accélération avant de quitter l'autoroute quelques kilomètres plus loin, à la sortie pour Chesterfield. La frontière du comté de Chesterfield englobait un noyau urbain composé de plusieurs petites villes, ainsi que de vastes étendues sauvages qui n'avaient pas dû beaucoup évoluer depuis l'époque de John Smith et Pocahontas. Ike suivit plusieurs routes de campagne, bordées de fossés assez profonds, pour envisager une expédition de spéléologie avant de s'arrêter devant un modeste centre commercial planté au milieu de nulle part. Au nord, un immense champ de maïs. Au sud, plusieurs mobilhomes côtoyant des containers abandonnés. Ike se rappela qu'à l'époque où il était sorti de prison, il y avait un garage automobile accolé au centre commercial, une espèce de hangar en tôle qui ressemblait beaucoup à l'entrepôt de Randolph Paysage. À présent, même l'ossature de la bâtisse avait disparu, éparpillé aux quatre vents ou revendu au poids au ferrailleur le plus proche. Ike se gara sur le parking.
« Reste ici, » ordonna-t-il. « Pas besoin de me le dire deux fois, »
répliqua Buddy Lee en plongeant la main dans la boîte à gants pour y récupérer son couteau pliant, qu'il tendit à Ike.
« Qu'est-ce que tu veux que je fasse de ce truc ?»«
Que tu plantes le bout pointu dans le ventre des gens qui t'embêtent. »
« Ce sera pas nécessaire. »
« Écoute, tu m'as avoué que les choses s'étaient pas très bien terminées avec ce gars. Alors il est hors de question que t'ailles là-dedans à poil. C'est soit ça, soit le flingue. »
Les yeux d'Ike se posèrent sur le canif. Peut-être que Buddy Lee avait raison. À quand remontait la dernière fois qu'il avait vu Lance ? 10 ans ? Ça laissait largement le temps d'oublier une dette. Ou de retourner sa veste. Cependant, autant une lame pouvait passer pour un moyen de se défendre, autant un pistolet serait considéré comme une provocation, un acte d'agression. Ike céda et mit le couteau dans la poche de son pantalon.
« Je reviens tout de suite », promit-il.
« J'avais pas l'intention d'aller courir un marathon »,
plaisanta Buddy Lee.
« Perds pas mon schlass, hein ?»«
Aucun risque. »
Un carillon électronique tinta lorsqu'Ike poussa la porte du barbier. La boutique comptait 5 fauteuils, dans lesquels étaient assis des hommes de tous âges, et il flottait dans l'air une odeur de produits ménagers, de laque et d'eau de toilette bon marché. Les fauteuils étaient placés face à un gigantesque miroir. Sur le mur opposé, entre des posters de Michael Jordan montant au dunk et de Mike Tyson sur un ring, on trouvait un tableau avec les prix des différentes coupes de cheveux proposées. Le reste de la cloison était occupé par un écran plat de 50 pouces qui retransmettait un match des Washington Wizards contre les Boston Celtics. Le son était coupé pour profiter de la playlist R&B des années 1990, diffusée par les haut-parleurs du plafond. Mais les sous-titres avaient été activés pour ceux qui voulaient suivre les commentaires.
« Je suis à vous dans une minute, chef !»
lui lança un des barbiers. Un homme d'un certain âge, aux tempes grisonnantes mais aux cheveux encore bien noirs.
« Je cherche Slack, il est là ?»
s'enquit Ike d'une voix forte, afin de couvrir le vrombissement continu des tondeuses. Et l'autre s'interrompit pour le scruter longuement.
« Qu'il demande ?»« Riot !»
répondit Ike après une seconde d'hésitation.
« Riot Randolph !»
La tondeuse dans la main du vieux barbier se mit à trembler. L'homme jeta un coup d'œil vers le rideau en velours bleu au fond de la boutique.
« Une minute !»
dit-il. Il éteignit son appareil, le posa sur le plan de travail et sortit un téléphone portable de sa poche. Ike regarda ses pouces danser sur l'écran. Après quelques secondes, l'homme se tourna vers lui.
« Asseyez-vous !»«
Hé, Maurice, tu comptes terminer aujourd'hui ou il faut que je repasse un autre jour ?»
lança au barbier le client installé dans le fauteuil. Et tout le monde dans la boutique éclata de rire.
« Change de ton, gamin! Oublie pas que j'ai Parkinson !»«
Qu'est-ce que tu racontes? T'as pas Parkinson ?»«
Non, mais c'est ce que je dirai aux flics quand ils me demanderont pourquoi je t'ai égorgé !»
répliqua le barbier. Et d'ajouter d'une voix chevrotante qui provoqua une nouvelle volée d'éclats de rire.
« Où suis-je, messieurs? Je ne comprends pas ce qui se passe !»
Ike se dirigea vers une rangée de 5 sièges soudés les uns aux autres et vissés au sol, et prit place sur le dernier. Sentant un cheveu lui chatouiller la gorge, il toussota pour le chasser, mais grimaça de douleur. Il avait l'impression que sa poitrine n'était plus qu'un énorme hématome.
« Putain, mais pourquoi il nous impose ce genre de conneries ?»
pesta un client ventripotent, qui était en train de se faire teindre la barbe. Installé dans le troisième fauteuil de la boutique, il avait sorti son bras de sous sa blouse qui lui couvrait le haut du corps pour désigner l'écran plat. En se tournant vers la télévision, Ike eut le temps d'apercevoir la fin d'une bande-annonce pour une compétition de drag queen.
« Tu sais très bien pourquoi !»
répondit le barbier.
« Les blancs adorent voir des noirs en robe. Ils nous féminisent pour nous affaiblir. »«
Encore un complot, Tyrone ?»
railla un de ses jeunes collègues à la peau plus claire, penché au-dessus du fauteuil voisin.
« Parce que tu crois que c'est pas dans leur intérêt que nos femmes deviennent plus indépendantes et que nos hommes deviennent des homos fragiles ? C'est comme ça qu'ils nous contrôlent, Lavelle. C'est pas de la parano si c'est la vérité. »
« Quand je t'écoute parfois, j'ai l'impression d'entendre un imam intégré sur YouTube. »«
Moi, je m'en fous qu'il soit homo. Ce qui m'emmerde, c'est qu'il se sent obligé de nous l'imposer en permanence. »
intervint le client qui se faisait teindre la barbe.
« Ils commencent à nous bassiner avec leurs trucs, là. »«
Et qu'est-ce qui t'impose, Craig ? Ils rentrent chez toi par effraction la nuit pour te mettre du rouge à lèvres pendant que tu dors ?»
ricana Lavelle.
« Pourquoi tu les défends ? Tu caches des talons à paillettes sous ton lit ou quoi ?»
« Ouais, ceux de ta mère !»
rétorqua le jeune barbier. Et Maurice éclata de rire.
« N'empêche que ces gars qui se déguisent en nana, pour moi, c'est la conséquence de la politique du gouvernement qui cherche à faire imploser les familles noires depuis des années !»
affirma Craig.
« Avec les allocs, les femmes pensent qu'elles peuvent se passer du salaire d'un mari. Elles pensent qu'elles n'ont pas besoin d'un roi dans leur vie. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des négros en perruque qui se trémoussent comme des tapettes.
Je suis pas certain de suivre ton raisonnement, commenta Lavelle.
En tout cas, si un de mes gosses s'avise un jour de m'annoncer qu'il est gay, je le fous dehors et il aura qu'à aller dormir sous un pont. Enfin d'abord, il faudra qu'il passe chez le dentiste, parce que je le louperai pas. Un homme qui laisse son gamin devenir homo, c'est qu'il a échoué. Pour reprendre les mots de Chris Rock, en tant que père, on a une seule mission. Faire en sorte que nos filles finissent pas stripteaseuses et que nos fils finissent pas avec une bite dans la bouche.
J'ai regardé tous ces spectacles et je peux t'assurer qu'il a jamais dit la deuxième partie, rectifia Lavelle.
Et si t'imagines ton fils avec une bite dans la bouche, c'est peut-être que t'as besoin d'aller consulter.
Tu vois, Lavelle, c'est pour ça que je préfère que ce soit Tyrone qui me coupe les cheveux, ronchonna Craig.
Cette dernière remarque lui valut quelques rires. Puis la conversation dévia sur les chances, quasi nulles de l'avis général, de voir les Wizards remporter le match face aux Celtics. Ike serrait si fort ses accoudoirs qu'il en avait mal aux avant-bras. Et il se faisait la réflexion que le siège sur lequel il était assis ressemblait beaucoup à ceux qu'on peut trouver dans un poste de police. Avant de commencer à perdre ses cheveux et de se résoudre à se raser la tête dans la salle de bain, il aimait beaucoup se rendre chez le barbier. Les plaisanteries qui fusaient, la connivence souriante, l'échange de piques amicales. C'était une culture à part entière. D'ailleurs, Ike considérait ce lieu comme un des derniers bastions où les Noirs n'avaient pas à s'excuser d'être Noirs. Mais la scène à laquelle il venait d'assister lui rappelait qu'il y avait aussi un côté beaucoup moins reluisant. Un côté dont il avait toujours connu l'existence, mais qu'il avait choisi d'ignorer. Ces salons étaient souvent des endroits où circulaient les idées réactionnaires et complotistes. Pire, elles s'y trouvaient renforcées par l'effet de groupe. Alors oui, il y avait parfois des gars comme Lavelle pour nager à contre-courant, mais dans la plupart des cas, tout le monde se laissait porter par le flot de bêtises. Ces gens pensaient-ils vraiment que si on avait un fils homosexuel, c'était parce qu'on avait été un mauvais père ? Ike ne se considérait pas comme un grand malin, mais même lui savait que ses nombreux manquements n'avaient rien à voir avec la sexualité d'Isaiah. « N'oublie pas qu'il y a 6 mois, tu aurais ri de bon cœur avec eux », songea-t-il. Mais ça, c'était avant qu'Isaiah ne prenne une balle dans la tête, avant qu'il se fasse abattre dans la rue comme un chien.
« Tout va bien, chef ?»
lui demanda Maurice en le regardant bizarrement.
« Quoi ?» Vous êtes en train de martyriser ces pauvres accoudoirs ? »
Ike desserra son étreinte et se rendit compte qu'il avait presque arraché le plastique de la structure métallique. C'est alors qu'un chauve passa sa tête grosse comme un ballon de basket et noir comme l'obsidienne entre les deux pans du rideau en velours bleu.
« Entre !»
lui intima-t-il d'une voix caverneuse. Ike se leva et pénétra dans une réserve transformée en véritable cabinet de ministre, avec une épaisse moquette brune au sol et un sublime bureau en bois sculpté accompagné de son fauteuil en cuir. Complétant l'ensemble, un second fauteuil, inclinable celui-ci, faisait face à une table basse en verre sur laquelle étaient posées 3 bouteilles, une de gin, une de bourbon et une de rhum. Un noir à l'apparence soignée était assis sur le siège inclinable, vêtu d'un pantalon à pinces noires et d'une chemise en soie à manches longues assorties, ouverte sur un t-shirt gris. De fines dreadlocks lui tombaient jusqu'au milieu du dos, et il tenait un verre en cristal rempli d'un liquide ambré qui devait être du rhum. Le chauve à la tête en forme de ballon de basket se planta devant Ike.
« T'es armé ? » demanda-t-il. « J'ai juste un canif dans ma poche. »
L'homme entreprit de fouiller Ike avec ses mains qui devaient faire la taille de batterie de camion et récupéra le couteau de Buddy Lee.
« Je te le rendrai quand tu partiras, »
promit-il. Puis il alla se placer dans un coin de la pièce et s'adossa au mur.
« J'ai déjà entendu ça quelque part, »
songea Ike.
« Ça fait un bail, Ike !» dit Schlack. « Je croyais que tu te faisais plus appeler Riot. »
Il avait un cheveu sur la langue et sa voix gardait la légère trace d'un accent du sud-est de la Virginie. À l'époque où Ike avait été incarcéré, Schlack était encore un petit maigrichon de 17 ans qui venait de succéder à son frère Luther à la tête des North River Boys. À présent, il était Lancelot Walsh, dit Schlack, dit le boss de Richmond. Après l'assassinat de Luther par Romello Skies, le chef des Rolling 80s, à la suite d'une prise de bec ridicule à une fête, même pas pour une histoire de business, Les North River Boys désemparés avaient quitté Richmond dans la précipitation et s'étaient tous réfugiés à Red Hill, la queue entre les jambes. Preuve s'il en était que ce n'était qu'une bande de gamins qui se prenaient pour des durs. Tous à part Ike. Enfin, Riot. Il avait retrouvé Romello. Il s'était chargé de Romello. Et ensuite, les autorités de Virginie s'étaient chargées de lui. C'était elle qui l'avait envoyé en prison. Mais c'était lui qui avait privé Mia de son mari et Isaiah de son père. « Je voulais attirer ton attention, » expliqua Ike. « Comment tu vas, Schlack ?
Qu'est-ce que tu fous ici ?»
le coupa brutalement l'autre, en posant sur lui ses yeux d'un noir de jais.
« Je croyais que tu t'étais rangé et que tu tondais les ploufs des bourgeois. »
« C'était le cas. Enfin, c'est le cas. J'ai besoin d'un service.
Quel service un type comme moi pourrait bien rendre à un type comme toi ? Tu veux que je m'occupe du mec qui t'a cassé la gueule ? Clairement, il t'a pas loupé !»
s'esclaffa Schlack. Et Ike encaissa la moquerie, la mâchoire serrée. « Je veux que tu m'organises un tête-à-tête avec un gars qui doit faire partie de tes clients. Aujourd'hui. »«
Qu'est-ce que tu sais de mon business ?» et de mes clients, Ike.
Je sais que c'est toi qui contrôles tout de Richmond à Red Hill, et jusqu'à Washington. Je sais que tu trafiques de la drogue et des armes. Je sais que c'est toi le propriétaire du Club Aloha. Sympa comme nom, d'ailleurs. Tu l'as choisi en hommage à Red Hill. Et je sais que tu peux m'organiser ce tête-à-tête. Parce que le gars en question est le genre à s'en foutre plein les narines et à vouloir s'encanailler avec de vrais gangsters. Or, le seul vrai gangster que je connaisse dans le secteur... c'est toi. Tu surveilles mes activités ? Demanda Schlack en sirotant son verre. La question, en apparence innocente, était lourde de menaces. Toute sa vie, Ike avait fréquenté des hommes dangereux. Lui-même en était un, comme aurait pu en témoigner un certain nombre de cadavres enterrés dans des tombes anonymes. Ces hommes dangereux avaient tous un point commun. Ils dégageaient une énergie sombre, alimentée par une détermination inflexible. Conjugués à une capacité innée à se foutre totalement des conséquences de leurs actes. Schlack était un des hommes les plus dangereux qu'Ike connaissait. Il devait d'ailleurs son surnom à tous les doigts et toutes les langues qu'il avait coupées. Et pas ceux de ses ennemis, mais ceux des frères, des sœurs et des femmes et des enfants de ses ennemis.
« Non, » répondit Ike. « J'entends des choses, c'est tout. »
Il sentit la tension dans la pièce le submerger tout entier. Schlack l'observait par-dessus le rebord de son verre. Dans le salon voisin, Craig avait parlé des femmes qui avaient soi-disant besoin d'un roi dans leur vie. Ike n'avait aucune envie d'être roi. Un roi ne dort jamais. Il finit comme Schlack, à scruter tout le monde en se demandant qui va essayer de lui arracher sa couronne.
« Et c'est qui ? Ce gars avec qui tu veux que je t'organise un entretien, Ike ?»
« Mr. Get Down !» répondit Ike en croisant les bras. Et Schlack lâcha un petit ricanement.
« Tariq, mon associé ?»« Parce que, ouais, figure-toi qu'on est comme cul et chemise, lui et moi. Il investit dans quelques-uns de mes clubs, et j'investis dans sa boîte de prod. Ce type m'a rapporté un paquet de fric ces dernières années. Et je vais pas te mentir, Ike. » J'ai bien compris que si tu veux le voir en tête à tête, c'est pas pour lui offrir des fleurs. Désolé, mais je vais pas pouvoir t'aider sur ce coup-là. Je peux pas me permettre de foutre en l'air une relation de travail aussi juteuse.
Ike avait la gorge sèche. Il craignait ce genre de scénario. Le temps est l'ennemi de la loyauté.
Et pourquoi ? Parce que c'est ton associé.
Je sais ce que tu vas dire.
« Évidemment que tu le sais. Parce que moi, j'étais bien plus que ton associé. J'étais ton bras droit, et le bras droit de Luther. Je t'ai jamais rien demandé, même quand je me suis retrouvé en cabane. C'est toi qui m'as promis que tout se passerait bien pour moi à Coldwater. Toi qui m'as assuré que j'avais pas à m'en faire, que t'allais t'occuper de Mia et d'Isaiah, parce que c'était la famille. Et ensuite, tu leur as envoyé $300. Une fois, j'ai fait le job et qu'est-ce que j'y ai gagné ? La visite de 4 malabars dans ma cellule et une femme qui devait faire 3 boulots à la fois pour subvenir aux besoins de notre fils !»
Ike se rendit compte qu'il était en train de crier. Le géant dans l'angle de la pièce se redressa. Mais Schlack leva la main.
« C'était compliqué, Ike.
On pouvait pas savoir que le cousin de Romello était pote avec les East Coast Crips. Et on pouvait pas savoir qui contrôlait Coldwater. Toi, tu t'es retrouvé en tôle. Mais pour nous, dehors, ça a été la guerre. La boucherie. Je reconnais que j'ai pas assuré, avec Mia et Isaiah. Mais soyons honnêtes deux minutes. Personne t'a mis un flingue sur la tempe en te demandant d'aller éclater la gueule de Romello en pleine rue. Faut assumer ces conneries à un moment.
Ike fit un pas vers lui.
Et j'assume, répliqua-t-il. J'ai buté le fils de pute à main nue devant sa mère et sa nana. Et je me suis retrouvé à l'ombre pendant 7 ans. J'ai abandonné ma famille. Je l'assume. Mais moi, je l'ai fait pour ton frère. Pour les North River Boys. Pour toi. Je l'ai fait parce que personne d'autre n'avait les couilles de le faire. Et parce qu'à l'époque, mes potes comptaient plus pour moi que ma femme et mon gosse. Ça aussi, je l'assume. Mais je sais que si la situation avait été inversée, si c'était moi qui avais fini avec une balle dans la tête dans le lit d'une pute au service des Rolling 80s, ton frère aurait fait exactement pareil pour moi. Parce qu'il était comme ça, Luther. Tu me dis que c'était compliqué, que ça a été la guerre. Oublie pas que tu l'as gagné, cette guerre. T'as éradiqué les Rolling 80s. T'as quitté ton mobilhome pourri avec ta mère et toute ta bande pour emménager dans le quartier le plus chic de Richmond. Pendant que tu comptais tes billets, moi je devais planter des mecs pendant la promenade. Pendant que tu baisais des stripteaseuses et des top modèles, moi je devais me taper les discours des illuminés de la Black God Coalition parce que j'avais besoin qu'ils me protègent. Pendant que tu bouffais du caviar, moi je me tapais la cantine de la prison. Et quand je suis sorti, je suis pas venu te voir. Alors qu'à cause de toi, ma femme a dû torcher des culs pendant des années et acheter les habits de notre fils à l'armée du salut. Et tu sais pourquoi je suis pas venu te voir? Parce que je leur ai fait la promesse que je tirais un trait sur le passé. Mais maintenant je suis là, et je te le dis en face, t'as une dette envers moi, envers ma femme. T'en avais aussi une envers mon fils. Mais il est mort. Et toi, tu veux protéger la seule personne qui peut m'aider à retrouver ceux qui l'ont tué.
Ike marqua une pause, avant de conclure.
Qu'en penserait Luther à ton avis?
Schlack se leva, franchit l'espace qui le séparait d'Ike, et se planta devant lui. Visiblement peu impressionné par le fait que celui-ci le dominait d'une bonne vingtaine de centimètres. Ike écarta légèrement les jambes, vérifia la position exacte du géant à la tête en forme de ballon de basket, et contracta ses épaules en attendant de voir ce que Schlack allait faire.
Luther était peut-être ton ami, mais c'était avant tout mon frère. J'ai pas oublié ce que t'as fait pour nous. Pour lui. Mais si tu crois que je vais te laisser menacer... Je te menace pas. Je t'expose simplement les faits. Je t'ai jamais rien demandé. Jamais. Jusqu'à aujourd'hui. Tariq peut me dire où se trouve la fille qui sait qui a tué mon fils. Mon fils, Lance. Ils lui ont tiré dessus en pleine rue, avec son ami. Et comme si ça suffisait pas, ensuite, ils leur ont foutu une balle dans la tête à chacun. Je l'ai même pas reconnu quand je l'ai vu à la morgue.
Est-ce qu'il pleurait? Il n'en savait rien, et il s'en fichait. Il en avait assez de cacher la douleur qu'il ressentait. Mais surtout, il n'en pouvait plus de ce chagrin qui l'étranglait. Il avait l'impression de devoir se battre en permanence contre une meute de hyènes affamées. Si Schlack et son gorille souhaitaient se foutre de sa gueule, libre à eux. Schlack se tourna vers le mur. « T'as pas l'intention de malmener Tariq, hein ?» demanda-t-il.
« Non, »
lui assura Ike après une seconde de réflexion.
« Il connaît une nana, Tangerine, et je pense qu'elle sait qui a tué Isaiah et Derek. »
Il marqua une pause. Il venait de se rappeler que quelques secondes avant, il avait dit de Derek qu'il était l'ami d'Isaiah, et il s'en voulait. Ils étaient mariés. Il voulut rectifier, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge.
« Tangerine ?»
s'esclaffa Schlack.
« Tu la connais ?»«
Non, mais... dans le genre non à la con !»«
J'ai juste besoin de lui parler. »
« Je vais te poser une question. Si elle te dit ce que tu veux savoir, c'est quoi la suite ?»
demanda Schlack, visiblement curieux de connaître la réponse.
« Comment ça ? J'imagine que tu comptes faire quelque chose de cette information, non ? »
Ike s'approcha de Schlack jusqu'à ce que leurs visages soient à quelques centimètres l'un de l'autre.
« La suite, c'est que tu oublies qui je suis, » dit Ike.
Et Schlack esquissa un sourire.
« Enfin, je retrouve le Riot que j'ai connu !» s'exclama-t-il avant de lui tourner le dos. « Reviens dans une heure, Tarik sera là !»«
Merci. »
Schlack retourna s'asseoir sur son fauteuil inclinable.
« Pas la peine de me remercier. On est quitte maintenant. »
Ike récupéra le couteau de Buddy Lee et s'apprêtait à franchir le rideau en velours lorsque Schlack l'interpella.
« Je t'ai longtemps envié, tu sais. J'avais l'impression que Luther te voyait plus comme son frère que moi. Et quand t'as éliminé Romello, je t'ai détesté encore un peu plus. »
« T'avais vraiment pas à m'envier. » Si tu savais le nombre de fois où Luther m'a fait promettre de toujours veiller sur toi. »
dit Ike, et Schlack eut un rire sans joie.
« Hein, tu te rends pas compte que c'est justement ça qui me rendait jaloux. »
Ike franchit le rideau et se dirigea vers la porte du salon. Mais au moment où il allait la pousser, il changea d'avis et se tourna vers le fauteuil où était installé Craig. Tyrone avait fini de lui teindre la barbe et les deux hommes étaient en train de débattre de qui était le plus grand rappeur vivant.
« Et que j'entende pas dire Eminem !» prévint Craig. « Mais pourquoi ? C'est un pur génie, ce type !» répliqua Tyrone. « Je veux bien reconnaître qu'il est pas mauvais, mais c'est tout. »« T'as vraiment besoin d'un sonotone !»
Ike se planta devant Craig, qui le toisa.
« Y a un problème ?» grogna Craig.
Ike hocha la tête. Il était conscient qu'il aurait mieux valu qu'il sorte retrouver Buddy Lee, mais c'était plus fort que lui. Et il regrettait que personne n'ait jamais fait pour lui ce qu'il s'apprêtait à faire pour Craig.
« Si je rentrais chez toi en pleine nuit et que j'égorgeais ton fils, je te garantis que t'en aurais plus rien à foutre de savoir s'il était homo ou pas. »«
T'as dit quoi, là ?
T'as très bien entendu. Tu veux juste pas écouter. »
Craig remua sur son siège.
« Reste assis !»
lui ordonna Ike.
« Si tu te lèves, je vais être obligé de t'éclater la tête, et il faudra des jours pour nettoyer les murs. »
Craig s'apprêta à répliquer quelque chose, mais Ike se retourna et quitta tranquillement le salon. Buddy Lee se redressa en le voyant s'installer au volant du pick-up.
« Alors ?» demanda-t-il.
Ike sortit le couteau de sa poche et le rendit à Buddy Lee. Puis, il démarra.
« On a une heure à patienter, » répondit Ike. « Ils vont ramener Tarik ici. »«
Tu penses que ça me laisse le temps d'aller me faire faire une coupe ?»« Quoique, les cheveux raides, c'est pas leur spécialité, hein ?»
Voyant qu'Ike ignorait son trait d'humour, Buddy Lee ajouta.
« Tout va bien ?»«
Pas vraiment, non. »«
Tu sais s'il y a un endroit dans le coin pour boire un coup ?»
Buddy Lee s'attendait à ce que Ike lui lance un regard noir ou lui fasse une énième réflexion.
Il avait tort.
« Ouais, je crois qu'un verre me ferait le plus grand bien à moi aussi. »